La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Tout savoir sur la maladie de Lyme, le dossier donc dans un instant avec mes invités en studio avec moi, la réalisatrice Chantal Perrin et la chercheuse Muriel Vessier. Bonjour à vous deux.
Bonjour,
bienvenue.
Bonjour.
Et puis par téléphone, le journaliste Roger Langlais. Bonjour.
Bonjour.
Chantal Perrin, lorsqu'on décide d'enquêter, comme vous l'avez fait sur la maladie de Lyme, il faut considérer vraiment le problème à l'échelle planétaire.
Absolument. En 2012, peut-être pas, mais à l'heure actuelle, 4 ans plus tard, je me rends compte qu'en fait, ça concerne absolument tous les pays.
Ouais, et ça se répand hein, comme une traînée de poudre, on va en parler avec vous dans un instant. Muriel Vessier, l'éthique adore transmettre les maladies, hein. C'est ce que vous voyez dans votre labo de recherche.
Tout à fait, en fait, l'éthique, ce sont les premiers vecteurs de maladies infectieuses en Europe, que ce soit pour chez l'homme et chez l'animal. Donc c'est vraiment des vecteurs très très importants.
Roger Langlais, la France fait la politique de l'autruche en ce qui concerne le nombre de cas dans notre pays ?
Bah, totalement. On est dans une situation schizophrène, totalement bloquée. Le ministère de la Santé ne reconnaît qu'une infime partie. C'est en tout cas ce que notre enquête fait ressortir. En Allemagne, par exemple, chaque année, on a plus de 500 000 cas d'érythème migrant, enfin signant absolument la maladie, reconnus, alors que l'érythème, on le reconnaît qu'une fois sur... Il est présent une fois sur deux. Et en France, on a 27 000 cas, vous voyez.
Ouais. Hein, donc, il y a des petits problèmes de frontières. Hein.
Voilà, donc l'éthique respecte, comme le nuage de Tchernobyl,
visiblement
bien la frontière française.
Absolument le même phénomène. Alors, sur trouve.fr et le mot-clé, l'attaque. On va donc s'intéresser à une maladie qui explose sur tous les continents. Vous le disiez tout à l'heure, Chantal Perrin. L'éthique, donc, en sont la cause. Qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, d'enquêter au départ sur cette maladie de Lyme?
Je la connaissais aux États-Unis. Hein, aux États-Unis, elle est répandue depuis maintenant une trentaine d'années. Mm-hmm. Donc, mais je ne pensais pas qu'elle était présente en France. Et puis, j'ai eu un de mes enfants qui a été atteint de symptômes qu'on n'arrivait pas à comprendre, c'est-à-dire qu'il dormait toute la journée, il avait des cauchemars, des maux de tête épouvantables, etc. Ça a duré pendant des années. Il avait aussi des problèmes de thyroïde. Et puis finalement, tout à fait par hasard, je suis tombée sur un médecin qui l'a diagnostiqué. Donc on était très contents de savoir ce qu'il avait enfin. Oui. Mais là, on a compris très vite que c'était un nouveau parcours du combattant pour se soigner, pour trouver un médecin qui soit assez compétent pour soigner ce type de maladie.
L'errance du diagnostic et les problèmes de soins reviennent régulièrement d'ailleurs dans les témoignages des auditeurs.
Hein. Oui, d'ailleurs après 4 ans d'enquête, je suis toujours incapable de donner des noms de médecins aux gens qui me contactent, ce qui est quand même grave.
Ouais. Roger Langlais, la France fait partie des pays qui ne sont pas visiblement à la hauteur des enjeux autour de cette maladie. Hein. C'est bien ce qui ressort aussi de votre enquête.
C'est ce qui ressort, oui. En fait, on n'est pas du tout à la hauteur. Alors, on n'est pas les seuls. Hein. Il y a des pays qui se distinguent aussi, comme la Norvège, par exemple, où on a aussi une répression des médecins qui veulent soigner selon le protocole moderne, enfin qui d'ailleurs commence à dominer maintenant aux États-Unis. On a en fait un protocole qui a été fixé en 2006 et qui était défini par les grands assureurs américains qui voulaient faire un remboursement à minima pour éviter le coût de la reconnaissance et du traitement de cette maladie. Et la France est restée, comme la Norvège et certains autres pays européens, est restée sur ce protocole qui permet à la Sécurité sociale, en fait, de présenter un bilan comptable moins catastrophique que si, en tout cas dans l'immédiat, hein, parce que les maladies s'aggravent quand on ne les reconnaît pas et qu'on les traite mal, mais dans l'immédiat, donc il y a un pilotage à vue de la Sécurité sociale, dont les intérêts comptables immédiats donc, correspondent finalement à ceux des assureurs américains, et donc les autorités françaises ne veulent pas démordre de ce système de reconnaissance à minima.
C'est ça, on reste sur ce modèle donc.
On reste totalement fixé sur ce modèle, donc avec un sous-diagnostic maintenant chronique et patent quand on le compare à ce qui se passe aux Pays-Bas ou en Allemagne. Comme on le disait, donc l'éthique semblait s'arrêter à la frontière française. Et en fait, moi j'ai été prévenu, c'est comme ça que l'idée et que j'ai rencontré Chantal ensuite pour enquêter, c'est des médecins frontaliers qui constataient que leurs patients français, lorsqu'on faisait faire l'analyse de sang du côté français, avait souvent un résultat négatif. Donc ils faisaient refaire le test en Allemagne et là, on découvrait qu'il y avait vraiment la maladie de Lyme et donc le résultat revenait positif. Donc ils s'étaient alertés à l'armée il y a déjà des années. Donc ils m'avaient contacté et c'est en faisant connaissance de Chantal qu'on a décidé ensemble d'approfondir cette enquête.
Muriel Vessier, qu'est-ce que vous étudiez exactement dans votre laboratoire autour de ces bêtes hein, qui posent problème à beaucoup de gens donc, sur la planète, les tiques?
Voilà, alors nous, on étudie les tiques et ceux qu'elles transportent et les microbes qu'elles transportent et peuvent transmettre soit aux hommes, soit aux animaux. Mmh. Donc, on va collecter des tiques dans les forêts en France. Donc, ça, c'est la partie sympathique de notre travail.
Oui, dis donc, on vous envie beaucoup, effectivement.
Voilà, on va se balader dans les forêts. Ouais. On les récolte avec un drapeau, en fait, qui permet de les attraper.
Ouais.
Et ensuite, on revient dans nos laboratoires et on détecte en fait tous les microbes que les tiques sont susceptibles de transmettre. Et c'est une première étape pour avoir des idées sur les micro-organismes ou les microbes qu'elle peut ensuite transmettre,
ouais.
Soit à l'homme, soit aux animaux.
Ouais. C'est une vraie bombe justement la tique parce qu'elle transmet énormément de microbes différents. Hein.
Voilà, donc en fait, en Europe, on va dire qu'elle transmet, elle peut transmettre environ une quarantaine de parasites ou de bactéries, d'espèces mmh. différentes de parasites ou de bactéries. Et puis aussi des virus qu'on connaît très peu. Et puis, lorsqu'on utilise des nouvelles techniques qui permettent d'identifier ce qu'on ne connaît pas a priori, on s'aperçoit qu'elle transporte aussi beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Et donc voilà, énormément de choses connues, mais aussi beaucoup d'inconnues ouais. et qu'on
ce
est
qui,
en train
ce qui complique beaucoup justement le diagnostic précisément du phénomène de la nature de cette maladie.
Alors probablement parce que on parle de maladie de Lyme, mais donc qui est causée par un groupe de bactéries qui appartiennent à des bactéries qui s'appellent Borrelia.
Borrelia ouais.
Mais lorsqu'on regarde donc ce qu'on retrouve dans nos tiques, on retrouve des Borrelia, différentes espèces de Borrelia, mais on retrouve aussi d'autres bactéries qui n'ont rien à voir avec les Borrelia, d'autres mmh. parasites et des virus, que tout ça coexiste au sein d'une même tique. Et que il n'est pas improbable que ces microbes soient co-transmis et provoquent des co-infections. Donc déjà, c'est compliqué de diagnostiquer une seule infection lorsqu'il y a des co-infections
ouais.
avec différents micro-organismes, des virus, des bactéries, des parasites.
Donc ça donne beaucoup de complexité ouais. hein, justement au diagnostic. Alors les tiques, certes, mais pas seulement d'ailleurs. Hein, c'est ce qu'on apprenait dans votre documentaire Chantal Perrin, quand les tiques attaquent, où vous nous emmeniez par exemple en Afrique pour parler des rongeurs.
C'est le lit.
Voilà.
Ah oui, là il y a un terrier actif. Probablement un terrier de mastomys creusé sous le ciment du sol de la case. Il y a certainement des tiques à l'intérieur. La personne qui dort dans ce lit a fait une borreliose la semaine dernière. Donc, et voilà très certainement l'explication, le terrier de mastomys qui est juste à côté du lit. Donc, les tiques sont certainement sorties de lui et attirées par le dormeur et voilà, et lui ont transmis la maladie. Puisqu'environ 30 à 40% des tiques sont infectées dans cette région.
Voilà, donc les rongeurs, mais effectivement les tiques qui restent à l'origine, au fond, hein, de ce virus qu'on attrape. Hein.
Oui, en même temps, il y a énormément de patients qui n'ont pas le souvenir d'avoir été piqués par une tique. Mmh. Donc il y a des modes, le mode de transmission, et on pense que la personne a peut-être pas vu la larve minuscule qui l'a piquée, mais en même temps, on n'en sait rien. Donc, il y a un problème certainement à la base de faiblesse du système immunitaire, mmh. de charge toxique qui peut être, ça peut être tout ce qu'on respire, tout ce qu'on mange, et puis les métaux lourds, etc. Donc, c'est ce qui fait que la maladie est compliqué à soigner, c'est pas uniquement la charge infectieuse, c'est aussi cette charge toxique. On se retrouve souvent devant des malades qui sont malades depuis une vingtaine d'années et à qui on ne peut pas donner un traitement antibiotique d'emblée, tellement ils sont affaiblis, d'où la complexité de cette maladie.
Muriel Vessier, ce message de Nicole qui nous dit ceci en forêt de Fontainebleau, beaucoup de tiques de différentes tailles, de très petites tailles d'une tête d'épingle, est-ce qu'elles sont aussi dangereuses que les plus grosses ?
Alors en fait, effectivement, il y a trois stades de tique. La larve, qui est une sorte de bébé tique, qui mmh. est vraiment minuscule, qu'on voit à peine. la nymphe et l'adulte. Et en fait, ces tiques vont s'infecter au moment de leur repas sanguin lorsqu'elles le prennent sur des rongeurs en général ou des oiseaux. Ouais. Et plus la tique est grosse, on va dire, plus le risque de transmission est grand. Donc chez la larve, c'est très peu. Le risque est très minime. Chez la nymphe, c'est très important. Et ce que disait Chantal est vrai, c'est que souvent, lorsqu'on se fait piquer par une tique, on s'en aperçoit pas parce que la piqûre de la tique est indolore. Donc la tique va pouvoir rester et se gorger de sang pendant plusieurs jours sans qu'on s'en aperçoive. Et comme les nymphes sont toutes petites, il y a très peu de chances pour qu'on s'en aperçoive. Et lorsqu'elles tombent, elles peuvent tomber et on ne s'est jamais aperçu qu'on s'est fait piquer par une tique. Mmh. Ensuite, il y a le stade adulte qui est aussi très porteur de ces microbes. Mais lui, il est plus gros et en général, on s'en aperçoit. Et plus vite on enlève la tique, plus le risque d'être contaminé est faible.
Ouais. Est-ce que la maladie se transmet uniquement par les tiques, demande Cathy. Est-ce qu'il peut y avoir contamination entre deux personnes?
Alors à ma connaissance, c'est pas prouvé. Alors la transmission sexuelle, elle est débattue à l'heure actuelle. Moi, j'ai pas de réponse scientifique formelle à vous
mais
apporter.
Mais il y a l'hypothèse en tout cas.
Les hypothèses sont là. Ouais. Les hypothèses aussi par d'autres vecteurs que les tiques. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'assurance scientifique pour dire ça.
Chantal Perrin.
Maintenant, les médecins, par exemple, aux États-Unis, qui ont des centres, des cliniques qui sont dédiées à la maladie. Maladie de Lyme, voit des couples qui sont porteurs des mêmes souches. Ils vont avoir l'un d'eux va arriver avec la maladie de Lyme avérée, et puis quelques temps après, le mari ou la femme également va être.
Donc on ne connaît pas le mode de transmission là, s'il est interespèce ou justement de la même tique.
Oui. Est-ce qu'ils ont été tous les deux piqués ou est-ce que. Par contre, la transmission materno-fœtale est avérée.
Est avérée, absolument.
Absolument. Puisqu'on retrouve chez des enfants ou des fœtus morts à la naissance, les mêmes souches que porte la maman.
Allez, on se retrouve dans un instant pour décrire les symptômes justement de cette maladie, puis pour répondre au message des auditeurs franceinter.fr.
Qu'on soit en rando ou même en vélo, où on passe plus vite, ils arrivent quand même à s'accrocher. Alors, je ne sais pas si c'est pendant les pauses ou pendant la pratique. Mais ça arrive qu'il y ait comme des nids de tiques. Ça nous est arrivé une fois en randonnée que quelqu'un s'assoit dans l'herbe pendant le casse-croûte, et il s'est relevé, il a peut-être 200 ou 300 tiques sur lui.
Toute l'année.
Même en hiver, des fois avec le chien se promenant la journée en raquette, on n'a été que sur la neige, on revient à la fin de la balade, le chien a chopé des tiques. Alors qu'on a démarré la balade sur la neige, on y est resté, donc ça a l'air d'être invulnérable.
Quand les tiques attaquent, c'est votre documentaire Chantal Perrin. Alors là, surprise, parce que même l'hiver, dans le froid, on peut attraper des tiques.
Ouais.
Parce qu'on a le sentiment que ça commence au printemps, justement avec les premières chaleurs, et pas du tout.
Et le bétail dans les Pyrénées, puisque ça a été tourné dans les Pyrénées, le bétail est couvert de tiques. Et il y a un éleveur là, de moutons qui me dit que les corneilles viennent picorer les tiques sur le dos des moutons, et les moutons se laissent faire.
Ah bah oui, j'imagine, oui.
C'est une des solutions pour...
Et même sur l'humain, Muriel Vessier, on peut en attraper donc, des centaines en une seule fois.
Alors, probablement, il parle de larves, parce que lorsque la tique pond, elle pond des milliers de larves.
Oui.
Et effectivement, on peut se retrouver attaqué par toutes ces larves. C'est certainement... En général, on se fait piquer par quelques tiques, pas des centaines à la fois.
Oui. Et donc, vous allez, vous, à la pêche aux tiques, même l'hiver?
En fait, on a un programme, de recherche sur 4 ans, où on va tous les mois récolter des tiques dans différentes forêts en France, or nous et nos collègues à l'INRA. En fait, l'idée, c'est de regarder quelles sont les densités de tiques en fonction de l'année et puis sur plusieurs années aussi en fonction du climat, de la densité des animaux qui vivent dans la forêt, etc. Et cette année, effectivement, nous travaillons en forêt de Sénart et il a neigé une fois où on devait aller rechercher des tiques. On s'est dit, on va pas y aller parce que effectivement.
Ça sert à rien, on n'en trouvera pas.
Et en fait, on en a trouvé, donc je confirme, il y a des tiques à l'affût même.
Elles nous envahissent tous les jours de l'année et en toute saison, c'est absolument abominable. Roger Langlais, quelles précautions à prendre justement pour essayer d'éviter d'en attraper? Alors d'abord pour les femmes enceintes, c'est peut-être la première des choses à dire.
Alors voilà, les femmes enceintes, un certain nombre de médecins commencent à conseiller aujourd'hui aux femmes enceintes aux femmes qui voudraient tomber enceintes, de retarder le moment de façon à éviter la transmission materno-fœtale, qui est bien démontrée aujourd'hui.
Ouais.
Mais on en a une autre qu'on soupçonne et qui on a enquêté voilà, dans notre ouvrage, on retrace la petite enquête qu'on a menée à ce sujet et l'état des connaissances sur la transmission, le doute sur la transmission sanguine. On a contacté donc un centre de transfusion. On a bien étudié le bordereau qu'il faut remplir quand on veut donner son sang. Et donc, on s'est aperçu qu'en fait, il ne prenait pas en compte les porteurs de la maladie de Lyme, alors qu'il est bien démontré que la Borrelia peut survivre dans le sang, dans les poches de sang. Donc, on s'est adressé aux experts de la question, etc. Là, on a rencontré en fait que des doutes, mais à partir de ces doutes, pas d'action précise en termes de prévention ou de sélection.
Ouais.
Alors qu'aux États-Unis, par exemple, la Croix-Rouge américaine écarte les éventuels donneurs de sang porteurs de la Borrelia. Donc là, on voit bien qu'il y a un déficit en termes de prévention en France qui est totalement inconséquent, enfin, qui est purement scandaleux. Alors, sur les autres conseils qu'on peut donner, c'est précisément si on veut donner son sang et qu'on a été piqué par des tiques ou qu'on a été malade de Lyme, le mieux, je pense, c'est de ne pas le faire. Ça va peut-être faire hurler certains médecins qui disent qu'on manque de sang. Et puis si on n'a pas été bien traité, si on pense qu'on a encore des symptômes, donc s'en abstenir. Toujours sur la prévention, il faut dire aussi qu'on peut en attraper dans des squares. Hein.
Oui.
Les forêts parisiennes, on en trouve. La forêt de Sénart en particulier, Muriel Vessy a travaillé dessus. Elle peut peut-être nous en parler, là, les forêts qui sont...
C'est ce qu'elle nous disait tout à l'heure, effectivement.
Oui, oui.
Il y a une question d'Alain qui demande pourquoi justement pas de campagne de prévention au niveau national dans les lieux propices à la piqûre des tiques et à la contamination.
Je réponds. Les campagnes, en fait, sont le fait des associations. En fait, ce sont les malades, les patients et puis certains médecins qui permettent que des campagnes de prévention soient réalisées. Par exemple, en Suisse, dans tous les centres médicaux, dans toutes les pharmacies, vous avez des petits dépliants qui vous permettent d'avoir au moins les bases de la prévention. En Allemagne également. En France, pas du tout.
Oui. Alors, il y a beaucoup de questions justement de gens qui s'étonnent. Il y a Frédéric qui nous dit ceci. J'habite en Alsace, région largement touchée par la maladie de Lyme. Pourquoi faut-il se battre auprès des médecins français pour obtenir une prescription d'analyse sanguine? C'est incroyable que nous devions traverser le Rhin pour trouver une prise en charge idoine ou s'adresser à des médecins spécialistes de Lyme, mais qui se cachent car ils savent être borderline en France dans leur prise en charge de cette borréliose et risquent d'être radiés. Roger Langlais, vous confirmez?
Oui, malheureusement, et donc encore une fois, on aurait beaucoup à apprendre hein, du système allemand en termes de santé, qui a le mérite de ne pas être centralisé. Finalement, quand il y a un verrouillage ou un blocage, les régions ont encore une indépendance et il y a une liberté de prescription donc plus grande, de fait. Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans ce système, mais vraiment un système de volonté de verrouillage. Et on voit encore des caisses régionales d'assurance maladie faire des procès, donc multiplier les procès qui visent les médecins qui veulent dépasser le protocole, encore une fois, fixé par les Américains.
Muriel Vessier, les symptômes de cette maladie de Lyme. Alors, on le disait tout à l'heure, maladie neurologique grave, mais l'évolution très lente, avec parfois une maladie qui se manifeste au bout de plusieurs années, voire quelques décennies.
Oui. Alors, le premier symptôme, comme l'a dit Chantal, c'est un érythème migrant. Donc, c'est une tache rouge qui apparaît sur la peau quelques jours, voire semaines après la piqûre de tique.
Ça, c'est le plus simple des symptômes, au fond, hein, pour repérer l'apparition de la maladie.
C'est le plus simple. Hein. Voilà, si on a été exposé à la piqûre de tique et qu'on a cette tache rouge qui apparaît sur la peau, il faut absolument aller consulter tout de suite. Et avec un traitement antibiotique, on va dire classique, en général, la maladie est en rayée et ça s'arrête comme ça. Le problème se pose lorsque les gens qui se font piquer ne voient pas cet érythème migrant, cette tache rouge.
Ou n'en ont pas.
Ou n'en ont pas.
Oui.
Effectivement, parce que ça peut être ou ne le voit pas. Hein. C'est difficile de savoir s'il y en a forcément un tout le temps ou pas. Mais en tout cas, voilà, les problèmes arrivent lorsque cet érythème migrant n'est pas vu et n'est pas traité.
Ouais. Ou même lorsqu'il est vu parfois par les médecins, Chantal Perrin, il n'est pas forcément associé à la maladie.
Oui, absolument. Il y a de nombreux patients qui nous ont dit qu'en fait, ils étaient arrivés avec leur grosse tache rouge et que le médecin leur avait dit, c'est certainement une araignée, c'est pas grave, on va mettre une petite crème et puis c'est bon.
Muriel Vessier.
Oui, c'est vrai que pendant longtemps, ça a été une maladie qu'on pensait être présente uniquement en Alsace. Et du coup, les médecins qui étaient hors de cette région-là connaissaient très mal la maladie. Oui. Et en particulier dans le sud de la France, où il y a beaucoup de tiques et de borréliose. Voilà, les médecins n'étaient pas vraiment au courant. Donc, je pense que c'est aussi...
Ils ne sont toujours pas, à mon avis, assez au courant et oui, assez formés. Et,
probablement.
Face à la multiplicité des symptômes, ce qui rend vraiment le diagnostic très compliqué, non ?
Oui et non, parce que quand vous avez plusieurs symptômes à la fois, un croisement de symptômes, on peut commencer à soupçonner une maladie bactérienne qui peut être la maladie de Lyme ou bien un des autres pathogènes transmis par la tique. Quand vous avez quelqu'un qui est à la fois qui présente à la fois une énorme fatigue, des maux de tête épouvantables, des douleurs d'arthrose, d'arthrite, etc. On peut commencer à se dire que le nombre des symptômes, le croisement des symptômes peut
mettre sur la voie d'une maladie de Lyme. Roger Langlais, il y a un message de Nadine qui nous dit ceci. Un médecin de Strasbourg m'a conseillé de faire le test de dépistage chez le vétérinaire car c'est plus sûr que c'est des labos pour humains. C'est quand même hallucinant.
Muriel va peut-être pouvoir
Muriel Vessier. Muriel Vessier.
Alors, les laboratoires vétérinaires ne sont pas autorisés à faire du diagnostic chez l'homme. Donc, c'est formellement interdit. Après, c'est vrai que les micro-organismes qui sont responsables des maladies chez l'homme sont aussi responsables de maladies chez l'animal et en général ce sont les mêmes. Donc il y a des tests de diagnostic qui peuvent être disponibles en médecine vétérinaire mais on ne peut pas les utiliser pour l'homme.
Allez, on se retrouve dans un instant dernier. Sur les différents symptômes, Roger Langlais, vous souhaitiez préciser justement sur l'aspect croisement de ces symptômes pour en savoir un peu plus.
Voilà, on donne dans notre bouquin, on donne tout un tableau permettant de croiser très méthodiquement les symptômes. C'est d'ailleurs le tableau qui prévaut de plus en plus aux États-Unis aujourd'hui, qui permet aux médecins, mais aussi aux patients, parce qu'il faut que le patient soit vigilant vis-à-vis du médecin, aussi bien en termes de diagnostic que de traitement. Donc ça peut aider les uns et les autres. Il faut savoir que beaucoup de maladies, beaucoup de symptômes sont confondus avec d'autres maladies. On se retrouve avec des enfants, par exemple, c'est souvent des enfants qui se retrouvent en psychiatrie, qui sont diagnostiqués. Puisque là, les symptômes neurologiques sont pris souvent pour des symptômes soit de comédie, soit de problématiques névrotiques. Donc on a des enfants sous antidépresseurs ou sous psychotropes, voire enfermés, séparés des parents, pour lesquels ensuite on diagnostique, mais souvent beaucoup trop tardivement, donc la maladie de Lyme. On retrace des témoignages, notamment celui d'un enfant qui a été enfermé littéralement, qui est resté très longtemps sous antidépresseurs, et donc la maladie n'a fait que s'aggraver. En reprenant son dossier, on s'est aperçu qu'il avait un érythème migrant, mais alors absolument spectaculaire, aussi énorme que le ventre, et que les médecins aucun médecin de ceux qu'il avait vus n'avait diagnostiqué la maladie de Lyme, alors que pour ce symptôme, encore une fois, il est absolument impératif, ça fait partie du protocole officiel français, d'appliquer immédiatement une antibiothérapie adaptée à la borrélia.
Muriel Vessier, cette question de Claire, pourquoi les piqûres de tiques, justement, qui étaient uniquement dangereuses pour les animaux de compagnie, ne le sont plus aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé?
Alors, je pense que rien n'a changé. Ça existe depuis toujours, en fait, les tiques et la borreliose de Lyme, elle existe depuis très longtemps. Aujourd'hui, on la connaît mieux. Après, ce qui a changé, c'est probablement... Il n'y a pas de chiffres vraiment prouvés pour dire qu'il y a plus de tiques aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Mais en revanche, on sait que les facteurs qui favorisent les tiques sont là. En particulier, il y a beaucoup plus de gros animaux dans les forêts qui sont les réservoirs des tiques. Et puis, il y a beaucoup plus de forêts aujourd'hui et moins de terres agricoles. Et ça favorise la prolifération des tiques.
Le réchauffement climatique également ?
Probablement, oui.
Chantal Perrin.
Probablement. C'est ce que disent certains chercheurs qui travaillent précisément sur les tiques et puis qui parlent aussi de problèmes de biodiversité, c'est-à-dire que les prédateurs des tiques sont en train de disparaître. les grenouilles, les crapauds, les certains, aux États-Unis, c'est les opossums qu'on essaye de chasser alors qu'ils se nourrissent de tiques. Enfin, il y a ce problème-là, et puis il y a le problème de la fragmentation des sols qui fait que les territoires sauvages sont de plus en plus investis par l'homme, et ce qui permet aussi la prolifération des tiques. Chez nous, quoi.
Merci beaucoup en tout cas à tous les trois. L'affaire de la maladie de Lyme, c'est donc une enquête que vous signez Roger Langlais et Chantal Perrin. Et cette enquête est publiée aux éditions Actes Sud dans les questions de santé. Et puis Muriel Vessier, vous préparez un programme de participation collective justement. On aura l'occasion d'en reparler, c'est promis, dans La Tête au Carré. Merci. À très bientôt.
Lévis.
Allez, à tout à l'heure.